Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07, pour retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi. Une journée magnifique en ce dimanche 31 mars. Déjà, évidemment, vous avez pu dormir une heure de moins. Mais surtout, ça nous rapproche de plus en plus vers le classique de la Ligue 1. 20h45, OM Paris Saint-Germain. Journée exceptionnelle sur RMC. Toujours avec Christophe Cessieux, Marie Martineau, David Douillet, Jérôme Pinault. Ce matin, dans quelques instants, revient Léon. On veut des médailles à la maison. Le nageur français Léon Marchand est en train de devenir une légende aux États-Unis. A-t-il le droit à l'erreur cet été? Ce sera le bras de fer des GG. Novak Djokovic pourrait terminer sa carrière sans entraîneur. Ce sera la punchline à 10h30, vous l'entendrez. Et puis Lucien Riquet ne s'interdit pas de faire tourner ce soir au Vélodrome, trois jours avant la demi-finale de la Coupe de France. Faire tourner dans un classique, serait-ce un manque de respect? On en débat à 11h avec notre copain du foot, évidemment, que vous connaissez par cœur, dans l'after, Daniel Riolo. Un très beau cadeau à vous faire gagner ce matin sur RMC. Nous vous offrons le tout nouveau maillot de l'équipe de France de foot qui vient juste de sortir pour l'Euro 2024. RMC sera d'ailleurs la radio officielle de cet Euro et grâce à Intersport, vous pouvez le remporter. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant bleu au 7-32-16, bleu par SMS au 7-32-16. Allez, un proverbe libanais pour débuter cette nouvelle heure. La gloire du savant est dans ses livres, celle du marchand et dans son coffre-fort.
RMC, le bras de fer GG.
Énorme coulée de Léon Marchand. Il est seul au monde, Léon Marchand. Il va conserver son titre mondial. Quel phénomène, quel monstre. C'est énorme, c'est monstrueux ce qu'il est en train de réaliser. Les yeux rivés vers le chrono. Léon Marchand va décrocher le titre mondial. Champion du monde, Léon Marchand. Léon Marchand, record du monde. Léon Marchand bat le record du monde. Détenu par Michael Phelps, il explose son record du monde.
Et depuis un an, Léon Marchand noua littéralement la concurrence des titres en pagaille, des records à l'appel. C'était encore le cas cette semaine aux finales universitaires aux États-Unis, les finales NCAA, trois titres individuels, trois records, une démonstration hallucinante du phénomène de 21 ans qui laisse présager des Jeux Olympiques historiques pour la natation française. Léon Marchand a-t-il désormais le droit à l'erreur? Cet été, dans le coin gauche, la team oui, bien représentée ce matin.
Par les athlètes peut-être.
Par des athlètes aussi.
C'est marrant ça. Tiens
donc. Pas impossible. Mais de là à dire que vous avez raison, il y a un pas. Oui. David Douillet, Marie Martineau et Jérôme Pinault dans le coin droit, la team non. Les journalistes facétieux mais très
nous,
intelligents.
Nous on n'ouvre pas les parachutes comme les athlètes quoi, tu vois.
Christophe Cessieux.
Oh, bah on n'est pas sûr de gagner. Oh,
bah non, je suis déjà parce que c'est que la pression.
Je suis dans ce bras de fer car je ne laisse jamais un soldat tout seul sur la route. Je n'ai
besoin de personne. Je vais les plier les trois là.
Avant de débattre.
C'est
tout
pour
même.
Ça le kaki ce matin. C'est pour le soldat.
Pas faux. On va retrouver à Indianapolis notre envoyé spécial Julien Richard. Salut Julien.
Bonjour les GG du sport.
Salut Julien.
Tu viens de passer une semaine avec le prodige français et il a déjà conquis l'Amérique.
Ah waouh.
Oui, on appelle ça la March Madness ici, la folie du mois de mars. Je vous confirme qu'on est en mars et que c'est fou. Ambiance de kermesse, ça sent le popcorn dans les allées, déguisement cop de supporters. Compétition par équipe dans un bassin de 25 yards, 22 mètres 86, hein, ça n'existe qu'ici aux États-Unis. Et à Indianapolis cette année, la March Madness a été rebaptisée
March on Madness.
Hymne et drapeau américain dans la piscine, mais la star est bien française. Léon Marchand, l'attraction pour les nageurs, pour ses adversaires.
J'adore sa façon de nager, c'est magnifique.
Il fait évoluer notre sport sur un autre niveau et c'est beau à voir. C'est tellement fun de le voir casser toutes ses barrières. Et il rend ce sport fun à regarder et ça le fait grandir.
Avec toujours cette comparaison qui colle au maillot. Neil Studd entraîne l'Université de Floride.
Il a tellement de points communs avec Phelps, tellement de courses, d'options, d'armes comme Michael.
Léon Marchand. Trois titres individuels décrochés, 500 nages libres, 404 nages, 200 brasses, plus deux relais, trois records battus, une diversité d'épreuves et une domination assez folle. À l'image peut-être de ce 500 yards nage libre où il termine avec plus de 4 secondes d'avance sur son dauphin. Crazy. Il écrit l'histoire et il se présente enfin devant les micros pour en parler.
Hey, bonjour. Yeah, I wanted to break the record again.
Je voulais battre de nouveau ce record, explique-t-il, d'abord dans un anglais parfait.
It was pretty cool today.
Enchaînant les questions des journalistes américains avant qu'on l'autorise enfin à quelques mots en français.
Bah, c'est des courses qui sont assez importantes pour moi, avec beaucoup d'enjeux quand même, les NCA. J'ai pas beaucoup de compétitions avec enjeux cette année. C'est une bonne préparation et c'est un environnement que j'adore. Une grosse atmosphère, beaucoup d'énergie et puis je nage aussi pour les autres, pour mon équipe.
Et le contraste est assez frappant à le voir s'éclater dans ce contexte avec ses potes des Sun Devils. On se dit que pour lui, star annoncé des Jeux cet été, Paris semble encore bien loin.
Je pense pas du tout à ça. Ce que je pense en ce moment, c'est à créer un peu des souvenirs avec mes potes, tout simplement. Et franchement, je sais que dans 10 ans, on sera toujours en contact et on se souviendra de ces moments passés. Et c'est vraiment des souvenirs de ouf. C'est mes meilleurs potes, donc c'était génial.
Oh my goodness! Roddy Gaines, c'est la voix de la natation aux États-Unis, triple champion olympique à Los Angeles en 84. Il commente les courses ici pour ESPN. Il sera sur NBC pour les Jeux à Paris. Pour lui, c'est très simple.
He's the best swimmer in the world.
C'est le meilleur nageur du monde. Il sait absolument tout faire. Il y en a un comme lui par génération. On a eu Michael Phelps, Max Spitz, Johnny Weissmuller. Et là, on a la génération Léon Marchand.
But now we've got the Léon Marchand generation.
From Arizona State, Léon Marchand.
Et à l'heure du bilan, le trophée à la main, le premier de l'histoire de son université d'Arizona State. Léon Marchand avoue s'être lui-même un peu surpris par moment.
Oui, notamment parce que je pensais pas être capable de faire ça. Et surtout de le répéter pendant 3 jours, c'est très intense. J'ai vraiment réussi à bien gérer mon énergie au fur et à mesure de la semaine. Je suis surpris.
Very good. Bob Bowman, son entraîneur américain, lui, a le sourire.
So much. He's grown from a little boy to a little
Il a tellement grandi, il est passé d'un petit garçon à un petit homme, un jeune homme. Il a gagné tellement en maturité. Il est de plus en plus fort. Les entraînements sont de mieux en mieux parce qu'il s'implique tous les jours et il ne fait que s'améliorer.
Léon Marchand va maintenant se tourner vers Paris. Première compétition en grand bassin dans 2 semaines.
Oui, in French.
Et Bob Bowman a encore un peu moins de 4 mois pour parfaire son français.
Léon est un nageur marvel.
Effectivement.
Nageur merveilleux. Merci Bob Bowman et merci beaucoup Julia Richard pour cet excellent reportage à Indianapolis. On en reparlera ce soir dans Bartoli Time à partir de 19h. Alors, Léon Marchand a-t-il désormais le droit à l'erreur aux Jeux Olympiques de Paris? Il y a donc David Douillet, Marie Martineau et Jérôme Pinault dans le camp oui, Christophe Cessieux et Bibi Jean-Christophe Drouet dans le camp non. Pour l'instant, les athlètes gagnent 63% pour le oui, 37% pour le non. Christophe Cessieux, on est derrière. Tu veux commencer ?
On peut commencer.
Vas-y.
Alors, quand tu dis a-t-il droit à l'erreur ? Évidemment que s'il se rate, on va pas le fouetter, on va pas le pendre en place publique. Hein. Ça, c'est
quoique. Voilà. Quoique. Vous en êtes capable.
Encore que. Mais ce serait une telle déception parce que ce garçon est tellement attendu qu'aujourd'hui, ce serait la fin du monde, quoi, s'il se ratait sur ces Jeux Olympiques. Je pense que les socles de ses futurs statuts sont déjà installés, sont déjà coulés dans le béton devant l'entrée de toutes les piscines de France. Ce garçon, vous l'avez entendu dans le reportage de Julien, on le compare à Mark Spitz, on le compare à Johnny Weissmuller, on le compare à Michael Phelps. C'est le nouveau génie de la natation. Vous imaginez le nouveau génie de la natation qui se plante, qui ne revient pas avec 3-4 médailles autour du cou?
J'ai même envie de dire 3-4 médailles d'or.
Oui, c'est ça. En plus, il faut que des médailles d'or. Il est annoncé comme l'immense star de ces Jeux. Peut-être pas seulement la star française, mais en tous les cas,
c'est
ce que disent. Alors attention, c'est nous qui sommes responsables, les médias, les anciens nageurs, et puis même ceux qui nagent avec une bouée canard autour du cou, tout le monde pense que c'est un génie de la natation et qu'il va exploser tout le monde. Donc c'est en ça que je dis qu'il n'a pas le droit à l'erreur, parce que ce serait une catastrophe nationale s'il se plantait.
Et non.
Parce que c'est lui sur lequel on compte. C'est comme si David Douillet s'était planté en 2000.
Aurait sombré dans la crise économique.
Ça aurait été pire que 29, cette histoire-là. Donc voilà, David, il s'est pas raté. Léon, il va pas se rater.
Alors, je ne retire pas, à quelques exceptions, je ne retiens pas une virgule à ce que vient de dire Christophe Cessieux. Totalement d'accord. C'est à vous de jouer et de répondre, évidemment. Marie Martineau.
Non, mais il peut rater, évidemment qu'il peut rater. C'est le propre de tous les athlètes, c'est de pas être au rendez-vous à l'instant T. Alors, la chance qu'il a, Léon Marchand, c'est qu'il a beaucoup de discipline. C'est comme Martin Fourcade, qui, rappelez-vous, quand il est arrivé à Pyeongchang, s'est planté sur la première épreuve. il s'est planté, il est passé à côté complet. Alors il a eu la chance qu'il a d'autres épreuves et derrière il a rattrapé le truc et il a cartonné et il a fait un nombre de médailles record. Mais en attendant, il était annoncé pareil comme la star, même internationale. Il a été élu athlète au CIO juste derrière et c'est les, tout le monde vote tous les pays et il a pris je ne sais combien de voix. Enfin, c'était la restade des Jeux de Pyeongchang. Pour autant, sur la première épreuve, il est arrivé et il s'est vomi dessus. Je ne connais pas les raisons, seul lui les connaît, mais en attendant, c'est arrivé.
Et mais tu te rappelles justement de la France était sans dessus dessous parce que Martin s'était raté, mais derrière il s'est rattrapé quand même.
Ah c'est ça, derrière il s'est rattrapé. Derrière, c'est la chance d'avoir plusieurs épreuves. Mais donc ça, je voulais dire, ça c'est possible et c'est pas grave et même dans un, tu vois, il a pu renverser la vapeur très très vite. Non, mais se remobiliser.
Il y a un an, ce discours. Il passe. Parce qu'il y a un an, tu annonces, ou même il y a deux ans, tu annonces Léon Marchand qui fait aller deux médailles d'argent, une médaille de bronze. Non, le mec, il a 21 ans, il arrive à faire trois médailles au JO. Mais aujourd'hui, avec le statut qu'il prend, avec tout ce que disent les commentateurs de lui-même aux États-Unis, ils sont bien placés pour avoir des grands champions. Mmh. Ils disent, mais on n'a jamais vu ça.
Non, mais il va cartonner. Hein. Non, mais tomber, hein.
Justement, on l'espère, mais est-ce qu'il a le droit à l'erreur quand il a déjà ce statut?
Il faut lui laisser le droit à l'erreur, tout simplement, parce que sinon, déjà... Pour lui, ne pas gagner la première, parce que là, on ne parle même plus de médaille, on ne parle que de l'or. S'il fait deux, déjà, si on dit ça, il faut respecter l'adversaire, il ne va pas être tout seul dans la piscine. Mmh. Et de deux, moi, j'ai vécu des jeux où une certaine Laure Manoudou est arrivée avec une énorme pression, comme Léon Marchand. C'était à Pékin, elle s'est craquée complet. Et quand j'ai vu l'athlète dans l'état qu'elle était, avant même que ça commence, tellement elle avait de pression, qu'elle n'a même pas pu kiffer son truc, laissons l'athlète kiffer les jeux, quoi. Le plus grand des Léon Marchand qui sera, c'est s'il est libéré. Il est dans un pays là où il est très encouragé, on l'entend, il y a de la ferveur.
Oui, il y a une grosse ferveur.
C'est très US, c'est très ricain, c'est on s'en fiche quelque part, il y a du show. Là, il va rentrer chez lui et il va revenir en France.
Et on va dire, incroyable.
Rendez-vous et il ne faut pas que tu te loupes. C'est le meilleur moyen pour qu'il se loupe. Alors, il la supporte, la pression, c'est un surdoué, il va marcher sur l'eau, il va tout péter. Oui, certainement, mais laisse-le kiffer. Moi, j'ai vu des athlètes, et notamment Laure, au Jeux de Pékin, qui était déjà, avant d'arriver, elle n'avait même plus envie de venir, tellement elle avait la pression.
Et rappelle-toi de Marie-Josée Perret quand
elle
la même chose.
Je pense qu'il faut quand même être mesuré dans ces propos-là, parce que tous ces commentaires-là, tout ce qu'on dit autour de ces gens-là, des athlètes, les surdoués, ne vous méprenez pas. Tous les athlètes disent oui, non, j'écoute pas. Makash, on écoute tous. Tout le monde écoute ce qu'on dit sur nous et lui doit savoir ce qu'on attend de lui.
On a avec nous, on a la chance dans David les grandes gueules du sport évidemment. D'avoir David Douillet, un grand champion, double médaillé d'or olympique. Et David Douillet qui était aussi très attendu. Donc ça m'intéresse d'avoir ton regard sur cette question. Est-ce qu'il a le droit à l'erreur, vraiment?
Je dirais que si t'as pas ça dans la tête, la compétition n'a plus de sens. Tu vois, c'est l'incertitude de la compétition qui est un moteur, en fait, tu vois. Si t'es entouré de gens qui te disent de toute façon c'est bon, ça va gagner, etc. Si tu perds toute ton humilité par rapport à la compétition, Là, par contre, t'es en grand, grand danger. Voilà. Donc, le droit à l'erreur, il faut toujours qu'il soit latent, il faut toujours qu'il soit là, il faut toujours que... C'est important. Si tu l'as pas, c'est la meilleure façon de tomber. Là, aujourd'hui, il est aux États-Unis, il est dans sa bulle. Je suis pas sûr qu'il ait toute la pression française sur ses épaules.
On a l'impression que ça glisse sur lui. Tu penses que ça va arriver?
Oui, ça va arriver.
Bon, la chance qu'il a, c'est que pour l'instant, en France, la ferveur des Jeux, Léo Marchand ne la sent pas, mais nous non plus. Hein, donc...
moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que là, c'est en train de monter. On parle beaucoup des Jeux depuis 15 jours, 3 semaines. Je pense que c'est dans l'actualité tous les jours.
Mais David, raconte-nous, toi, comment...
On critique beaucoup l'arrivée des Jeux. On dit que ça va être le bordel, mais on ne parle pas. C'est une ferveur de ouf.
C'est un autre débat. On en avait déjà parlé dans cette émission. Et rassurez-vous, on risque d'en reparler. Mais David, toi, quand t'es arrivé sur des jeux là, est-ce qu'il y a un truc que tu peux nous raconter où t'as senti une chape de plomb?
Bien sûr que tu le sens, bien sûr que c'est là, et bien sûr que ça peut te faire échouer. Le truc, quand t'es pas certain de ta condition physique, c'est que t'es ce qui était mon cas, t'es porte-drapeau en plus, ça t'en remet une louche. Porte-drapeau, il faut pas que je me rattrape. Après, tu vois, ça te, t'as emmené la délégation française dans l'arène des Jeux Olympiques. Et toi-même, qu'est-ce que tu vas faire? Toi-même, tu dois montrer l'exemple. Toi-même, enfin, toi, il y a tout ça. Tu te dis, c'est ma dernière compétition.
Ouais,
enfin,
mais David, toi, à la différence de Léon.
Il a un contexte de performance. David. Il a un contexte de performance aujourd'hui où tout le monde dit, c'est un des meilleurs de tous les temps. C'est sans doute vrai, tu vois. Mais laissons. Laissons un humain gérer ses propres émotions. Si jamais, il peut être écrasé par ça. Vraiment, ça peut écraser un bonhomme.
Et il reste 4 mois, David aussi. Il reste 4 mois et demi.
Il peut se passer des choses. Hein, il peut se blesser. Il peut choper une saloperie qui l'empêche d'être vraiment en forme. Il peut arriver beaucoup de choses.
Il y a un truc qui me rassure dans tout ça. C'est ses parents. Ses parents sont des athlètes, ont été des athlètes.
Un champion. Mmh.
Sa maman a fait les Jeux de Barcelone. Son papa, il a été vice-champion du monde. Il a fait Atlanta, etc. Enfin, tu vois, il est depuis tout petit baigné dans des parents qui ont ce profil psychologique-là, du haut niveau, et qui ont probablement, et c'est une des raisons pour lesquelles il est aussi précoce et aussi bon mentalement, déjà à 22 ans, il est déjà préparé, il est déjà... Il est capable de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Il est capable, sans jeu de mots, de se mettre dans sa bulle pour s'extraire de ses pressions négatives et faire son job, tout simplement, avec l'immense talent qu'il a. Donc ça me rassure.
Oui, voilà. ça nous rassure.
Et le droit à l'erreur, bien sûr qu'il a le droit à l'erreur. Et heureusement qu'il a le droit à l'erreur. Et il faut qu'il ait le droit à l'erreur. Parce que sinon, il étouffe, il meurt, il est asphyxié. C'est pas possible de vivre comme ça.
Il y a des GG qui veulent rebondir, mais juste Aurélien nous appelle au 32-16. Il veut participer à ce débat. Salut Aurélien.
Salut à tous.
Salut.
Bonjour Aurélien. Fais quand même attention à toi, mais je veux savoir dans quel camp tu es.
Ah bah, alors malheureusement, je l'adore, c'est un de mes journalistes préférés, mais bon, il a un seul défaut, c'est qu'il est supporter de l'OGC Nice, mais encore une fois.
Ça, c'est pour moi ça.
Oui.
Mais t'es pour Christophe. Fois,
je suis d'accord avec...
T'es dans notre camp.
Je suis dans votre camp, dans le sens où j'entends ce que dit M. Douillet et je suis d'accord avec certains points.
Tu peux mal dire David, ça va.
Monsieur le double médaillé d'or.
Vas-y Aurélien.
Et on fait une courbette, on fait la révérence quand on se trouve devant lui. Moi, c'est ce que je fais.
N'importe quoi.
Vas-y Aurélien.
En fait, je vais poser la chose simplement. Michael Phelps, il était attendu, il a fait tout ce qu'il aurait dû faire. Usain Bolt, il était attendu, il a fait tout ce qu'il a fait. Et moi, j'ai ce traumatisme du 50 mètres nage libre de 2016, où Florent Manaudou, en demi-finale, pulvérise le record, je crois, le record du monde, son record personnel sur la distance. Et en finale, il est archi-favori. Et il perd face à Anthony Irvine, qui avait gagné en 2019, en 2000 à Sydney, déjà les 50 mètres nage libre, et qui après avait connu une descente aux enfers, bref, des chaussons, qui était revenu à Rio. Personne pariait sur lui, et lui, il était arrivé, il avait dit « Non, mais moi, je viens pour la médaille d'or. » Et c'est dans ce sens où, je m'en souviens, il l'avait battu alors qu'il n'y avait aucune raison. Et Florent Manaudou, il était là « Oui, bon, je suis content, on va voir, je vais faire de mon mieux. » Non, pour moi, quand t'es favori, tu vas. C'est pas de l'arrogance, c'est de la prétention, c'est de la confiance en toi. Et je trouve ça super que Léon Marchand, il soit aux États-Unis. Je pense qu'il faut qu'il y reste.
Qu'il fasse les Jeux à New York, ouais, ce serait mieux, ou ouais, à Los Angeles.
Non, mais c'est pas ça, c'est la mentalité, quoi. Parce qu'en France, ouais. Moi, ce qui me saoule, je sais qu'il y a de la pression pour les athlètes. J'ai jamais atteint ce niveau, j'ai dû rester pour eux. Mais en France, c'est vrai que je suis d'accord avec Christophe, on a un peu cette fâcheuse tendance à un peu préparer le parachute et.
Non mais personne ne prépare le parachute. Je te dis juste que psychologiquement, Marie, c'est une Martino. Bonne porte de sortie de savoir qu'il a le droit de rater. C'est une bonne porte de sortie de savoir qu'il a le droit que même s'il rate, il pourra toujours rebondir parce qu'il a plusieurs épreuves. Il a dit un truc intéressant dans le reportage. Il a dit je me crée des souvenirs avec mes potes. Évidemment que ça marche. Cette posture, elle marche très bien aux US et il est dans une piscine avec tous ses copains et tout. Là, ça va pas être la même. Et il le sait. Je dis pas qu'il ne le sait pas. Hein, il le sait très bien. Et peut-être que justement la soupape. C'est de se dire, ok, j'ai le droit de rater. Ok, et il n'y aura pas mort d'homme et on ne va pas me clouer au pilori. Christophe l'a très bien dit, on ne va pas lui jeter du gaudron et des plumes. Mais ça permet de relâcher un tout petit peu.
C'est vrai, mais au-delà il ne dispute pas, et vous l'avez rappelé, il ne dispute pas qu'une course. Et au-delà des médailles d'or, franchement, sur ces jeux, peut-être que j'ai tort, mais moi personnellement, j'attends des records. J'attends des records olympiques, j'attends des records du monde.
Tu vas les avoir. Hein.
Oui. Non, non, mais vous voyez, c'est en ce sens que, en fait, c'est pas juste. C'est ah bah, normal, il est champion olympique. Non, en fait, on veut qu'il batte Phelps. On veut qu'il gagne le plus de médailles possible.
Oui,
vous voyez,
ça,
on
en a aussi,
là, t'es en train de mettre. Tu sais ce que j'ai vécu avant ma finale des Jeux. Il y avait Shinohara qui était à côté de moi, le japonais. Et c'est précisément ce que lui a mis sur les épaules son entraîneur. J'étais à côté de lui, je comprends quelques mots de japonais. Il lui a mis une pression telle que le mec, il est arrivé avec des pieds de plomb en finale. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut détendre l'athlète. Il faut le dégager de toute cette pression inutile qui est liée à... Le Japon ne gagne pas beaucoup de médailles. Tu es l'honneur du pays. Le titre olympique... Non, mais vraiment, il disait ça à quelqu'un... Non, mais l'enfer. C'est ce que vous êtes précisément, messieurs, en train de faire. C'est absurde. C'est la meilleure façon de faire perdre quelqu'un que de lui mettre une pression inutile. Se dégager de tout ça, même se dégager de l'enjeu pour être le plus détendu possible, pour être le plus performant possible, le plus fluide possible, le plus lucide possible, c'est la meilleure solution pour aller chercher l'or. Et il faut surtout pas en parler.
Ok, donc on se trompe.
Non mais t'as raison, on devrait surtout pas parler de jeu, surtout pas parler d'objectifs de médaille. On devrait laisser faire, fermer les yeux et attendre que ça se passe. C'est la meilleure solution.
Je parle du coaching que tu dois avoir vis-à-vis de la terre.
Il y a l'attente normale pour le supporter, pour nous Français, on a envie de gagner. Là, on a une pépite et on a envie de le voir dominer. Il y a l'attente. Mais il y a aussi ce qu'on a le droit d'attendre d'un athlète, et il a le droit à 99% de nous ramener 4 médailles parce que c'est ce qu'on attend de lui. Mais il peut aussi arriver une fois qu'il se loupe et qu'il fasse 4e, 2e ou
bien sûr, évidemment, c'est pas
le plus important. S'il ramène 2 médailles d'or, ça va.
Non,
c'est
mais,
bon.
Et ce qui me rassure, parce qu'on a entendu dans les propos d'Aurélien, c'est ça, notre auditeur. C'est un peu, en gros, ouais, ça fait chier ce que les Français, on se loupe à chaque fois. Moi, ce qui me rassure, c'est que Léo Marchand, il se prépare loin de notre pays et qu'il est un peu loin de tout ça. Et c'est peut-être ça la bonne nouvelle, finalement.
Mais
c'est
il va prendre une bouffée de pression
quand il va mettre le pied sur le sol français.
Par contre, ça, c'est sûr. Mais là, il va comprendre ce que c'est.
Alors, il a compris un peu l'année dernière quand il est revenu, mais il a eu raison de partir aux États-Unis. Ça, c'est la clé du succès, je pense.
Ok, c'est la fin de ce bras de fer. Sachez que nous sommes partis à 60 ans. Alors, évidemment, David est parti faire quelques longueurs.
Allez, vas-y.
63%, 37% pour le nom. Christophe, on a gagné un petit
peu. 1%,
vous dites.
38. Ouais. J'entends. Il y avait votre fourbe.
Bravo. C'est impressionnant.
C'est vos familles qui ont dû allumer la radio là, je pense.
38%, ouais. Voilà, on a gagné. Quelque part, on a gagné avec Christophe. Bravo,
oui.
Christophe.
Oui, raconte-toi une histoire.
Merci à Aurélien d'avoir composé le 32-16. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la punchline et Novak Djokovic qui pourrait continuer sa carrière sans entraîneur. Oui, sans entraîneur. Et puis à 11h, on parlera de nouveau de cet OM Paris Saint-Germain avec Daniel Riolo. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33, toujours avec David Douillet, Marie Martineau, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. Restez bien avec nous dans 10 minutes dans les grandes gueules du sport. On s'en fout pas. J'ai du vélo avec le Tour des Flandres. J'ai du Anne Hidalgo qui ne veut pas d'athlète russe et biélorusse à Paris pour les Jeux Olympiques. Je sais que ça va vous faire réagir. Et puis aussi le retour de Romain Ntamack hier soir. Vous me direz si toutes ces informations vous intéressent ou non. Et puis à partir de 11h, Luis Enrique qui ne s'interdit pas de faire tourner pour ce match OM Paris Saint-Germain. Serait-ce un manque de respect? On en débattra avec Daniel Riolo qui viendra nous rejoindre. En pleine saison, Novak Djokovic a décidé de tout changer, à bientôt 37 ans. Mercredi, il a mis fin à sa collaboration avec son entraîneur depuis 4 ans, Goran Ivanišević. Après pourtant une année 2023 exceptionnelle, une grosse dispute à l'entraînement à Indian Wells serait à l'origine de cette séparation. Jeudi, Djoko, actuellement en Serbie pour préparer sa saison sur terre battue, s'est présenté en conférence de presse et n'est pas sûr de vouloir de nouveau un entraîneur. C'est la punchline des GG rapportée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
Je n'ai pas d'idée précise sur l'idée d'un nouvel entraîneur et je ne sais même pas s'il y en aura un. J'ai des entraîneurs depuis que je suis petit, mais maintenant, j'essaie de voir par moi-même ce dont j'ai besoin, ce qui me convient le mieux.
Notre débat qui va dépasser le cadre, évidemment, du tennis. Peut-on réussir sans entraîneur? Oui ou non? Jérôme Pinault?
Non.
Christophe Cessieux?
Djoko? Peut-être.
Marie Martineau.
C'est intéressant. Moi, c'est un nom.
David Douillet.
Lui, oui, il peut se passer.
Ah. Ok, on a le droit de parler évidemment de Djoko parce que c'est ce qui nous rassemble et puis on peut élargir ce débat. Il y a un nom tout d'abord assez franc, direct. Jérôme Pinault, pourquoi non ?
Non, parce que quand tout va bien, c'est possible. Le jour où il faut redresser certaines choses, quand on s'auto-coach, quand on est seul, qu'on n'a pas de coach, qu'on n'a personne qui vous apporte la contradiction, on tombe dans ce qu'on appelle la suffisance parfois. Alors ça a beau être Djokovic, mais ça reste un athlète.
Il n'est pas à l'abri, oui.
Et il a forcément un jour des doutes, une question, un moment de faiblesse où on se dit on fait quoi aujourd'hui, comment on fait pour remonter la pente. Et quand on est seul, on va s'écouter soi-même. Et ce n'est pas d'un grand secret que l'athlète blessé n'est pas le meilleur conseil pour lui-même en général. Donc non, je pense que c'est une vraie...
Mais
après, coach et coach, en tennis évidemment, peut-être qu'un mec comme Djoko, il n'a pas besoin d'un... Mais être accompagné par quelqu'un qui sait lui dire « Non, là, je pense que tu te trompes, réfléchis », c'est très important.
Mais attention, hein, parce que Djoko, s'il n'a pas d'entraîneur, il a quand même toute son équipe derrière lui. Hein. Il va pas arriver tout seul dans les tournois avec sa petite raquette et ses palettes
sans butel.
Il a son physio, il a son préparateur mental, il a
son masseur, il a
tout ça. Ça, il va rester. Donc, il pourra.
Donc, selon toi, l'entraîneur, il a servi à rien jusque-là, quoi.
Non, mais si, il a servi à quelque chose. Mais je pense qu'il
si
est arrivé à un tel degré de connaissance de lui-même, de ses muscles, de ce qu'il, de dont il a besoin, de comment il a gagné. Pour faire un jeune tennisman qui arrive sur le circuit, s'il n'a pas de coach. Mais je pense que lui peut y arriver. Alors peut-être pas sur la longueur, mais je pense que...
Moi, je suis profondément persuadé que tous les athlètes, quels qu'ils soient et quel que soit leur niveau, et pour en avoir côtoyé des très hauts niveaux. Je te prends un exemple, Tom Bonen. Tom Bonen était l'ultra-dominateur des classiques. Il avait de la rivalité comme Djoko a. Hein. Il avait besoin d'un entraîneur et son entraîneur est resté avec lui jusqu'au
bout. Surtout besoin d'un vélo à moteur comme Cancellara, surtout.
Ça, c'est toi qui l'affirme. mais moi, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu n'as pas besoin d'un coach tant que tout va bien.
Mais même si tout va bien, en ce moment,
on rappelle que Novak Djokovic, il s'est fait sortir à Indian Wells.
Bah c'est justement pas le bon moment pour
prématurément. Il vit un début de saison difficile.
Ouais.
C'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est embrouillé avec son entraîneur.
Tu sais, Marie, ça fait un peu le truc. T'inquiète, dégage, je vais gérer. Et là, c'est la plus mauvaise des décisions.
Oui, alors peut-être qu'il laisse la porte ouverte en faisant cette sortie et qu'il a dans l'idée de remplir cette case. Mais j'ai une petite anecdote pour l'avoir éprouvé, en fait, avec ou sans coach. En été, le coach, donc on est le Team France, et notre coach, Greg Guenet, qui nous coach tous ensemble toujours, s'ouvre la main de manière abominable avec un vase, en nettoyant un vase, et il doit être opéré. Et puis, il a une réduc, et donc, il ne vient pas avec nous sur la seule période de coaching très importante de l'été. On n'a pas beaucoup de jours de ski, vous imaginez bien, sur les glaciers en été, et il n'est pas là. Et donc, on est obligé de mettre des caméras. On va quand même au stage, on fait quand même le stage, et on est tous là. Donc, on a tous un œil très, très avisé sur les autres, sur ce qu'on fait d'habitude. Enfin, on pourrait presque s'auto-coacher. Et on essaye de le faire, et on se filme, et le soir, on lui envoie les vidéos. Il est à la maison avec sa main dans le torchon, là. Et on essaye de faire tout. Il y a le staff, il y a les coachs, enfin, il y a les kinés, il y a tous les gens qui nous accompagnent habituellement. Il manque juste Greg. Et ben, je vous jure qu'on a fait un stage de merde. C'est sûr, on a entretenu ce qu'on savait faire. Ça nous a permis de refaire les figures qu'on faisait l'hiver dernier. Mais évidemment, on n'a pas balargué des nouvelles figures. Si on a contenté, ils sont défoncés. Enfin, ça n'a pas marché et ça ne marchait pas. C'est un exemple. Je dis pas que ça marche pour tout le monde. Mais en attendant, on a expérimenté le fait que même en mettant toutes les chances de notre côté, ben, ce stage, il a pas été concluant.
Est-ce qu'un David Douillet avait besoin d'un entraîneur, forcément?
Bah écoute, je vais te dire la vérité, c'est que lors de ma dernière compétition à Sydney, je faisais ce que je voulais, en fait. Tu vois, j'avais mes entraîneurs qui étaient là, en qui j'avais une totale confiance, qui m'apportaient leur vision, les petits détails techniques du moment avant de monter sur un tatami pour vérifier si j'avais rien oublié. Mais en termes de gestion personnelle, j'avais besoin de personne, et depuis un bout de temps. En revanche, tu as toujours besoin d'être en sécurité psychologique, d'avoir une personne, et c'est pas forcément un coach, qui soit capable de t'apporter la contradiction sur tes décisions. Voilà. Et c'est pas forcément un coach. Donc là où on est, Goran Ivasinovic.
Novak Djokovic.
Pardon, là où on est Djoko dans sa vie d'athlète, je pense qu'il en est là. Et Et si il a, il a cette expertise ultime de savoir ce qu'il faut faire dans son tennis, etc., etc., ben il a peut-être pas forcément besoin d'un entraîneur. S'il a la lucidité de savoir ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin pour préparer son physique, et je pense qu'il a toute l'expérience, il en a pas forcément besoin. Ce dont il a besoin exclusivement, c'est d'une personne de confiance à ses côtés, qui soit en capacité de lui dire la vérité, qui n'ait aucune indulgence sur lui et qui ait pas ce phénomène de cour, et d'avoir une vraie personne qui l'entoure. Donc un coach pas forcément.
Voilà. Ah David, c'est le téléphone rouge des GG. Ça veut dire qu'il y a une GG qui nous écoute et qui veut réagir à notre débat.
C'est Bennett ou César ça?
Peut-être Marion Bartoli.
Ah Marion, bien sûr.
C'est possible. Oh, mais... On va décrocher.
Marion, elle prépare.
On va décrocher les copains en régie. Allô, c'est qui?
Bonjour les GG.
Julien Benedetto, sur notre débat Novak Djokovic, est-ce qu'on peut réussir sans entraîneur? Dis-nous ce que t'en penses.
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire David à la fin, c'est-à-dire que en fait, Djokovic, il n'a pas besoin d'entraîneur pour progresser techniquement au tennis. Ça, il se connaît maintenant par cœur. Au niveau du physique, sur ce qu'il doit faire, sur son planning d'entraînement, sur sa planification de ses journées, etc. Pareil, il a l'expertise et il a l'expérience pour faire ce qu'il faut. Et en plus, là-dessus, il est entouré. En revanche, effectivement, il a besoin d'une personne de confiance qui lui dise certaines choses, mais qui est quand même liée au tennis. Parce que je pense que pour aller chercher encore un grand chelem, il ne peut pas le faire seul, entre guillemets, avec seulement quelqu'un axé sur soit la préparation physique, la nutrition, etc.
Il ne peut pas le faire seul.
Et rien sur le jeu.
On appelle ça un coach. On appelle ça un
voilà.
coach.
Exactement. Voilà. Donc,
Julien Federer, il a eu une partie de sa carrière sans entraîneur. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps, mais
Ça n'a pas duré très longtemps. Après, il a quand même eu souvent. Ça n'a pas duré très très longtemps. Je ne sais pas s'il a gagné les grands chelems à cette époque-là sans mentor ou sans coach tennis, on va dire, à la place d'entraîneur tennis. Il a souvent eu deux entraîneurs, même lui, qui partageaient le temps, Séverin Luthi et Paul Anacone pendant longtemps, Ivan Lubitschik sur la fin de sa carrière, avec qui il a regagné les grands chelems. Donc je pense qu'il a quand même besoin... dans la préparation, ça joue tellement à des détails maintenant quand il se joue entre les monstres du circuit, entre Alcaraz, Sinner, Djokovic et Nadal, qu'il ne faut pas oublier sur Roland Garros. Je pense quand même qu'il a besoin, pour aller chercher pendant 15 jours sur le Grand Chelem, d'avoir quand même une personne référente par rapport à son jeu, à son tennis, qui ne va pas lui révolutionner le coup droit à le revers, mais qui va lui dire attention, à tel moment, regarde ce qui se passe.
Mais toi, Julien,
est-ce que ça s'appelle un entraîneur?
Un coach, un coach.
Retour d'expérience.
Je ne suis pas sûr que ça s'appelle un entraîneur.
Un coach, c'est qui en base?
Un manager, un coach.
T'as raison, David. T'as raison, David, c'est plutôt un coach.
Julien, t'as traversé, toi, ta carrière à un moment donné sans entraîneur. Comment ça s'est passé?
Moi, j'ai eu. Il n'y a pas eu de. Comment dire par exemple, à la fin de ma carrière, j'avais plus un entraîneur. J'avais mon frère qui était avec moi, qui connaissait le tennis, qui me connaissait très bien et qui faisait plus office de coach que d'entraîneur. C'est-à-dire que j'avais 34-35 ans. C'était mon dernier défi de ma carrière. C'était de revenir de ma blessure, de repartir de la 700e place mondiale à là où je pouvais aller. Et j'avais besoin, à ce moment-là de ma carrière, quelqu'un qui me connaisse, qui connaisse le jeu.
Ok, la confiance, quoi.
Mais par contre, c'est sûr que coup droit, revers, service, techniquement, là, le travail, il est fait. C'est plus par rapport aussi à préparer les matchs, la confiance, un peu l'aspect mental, mais aussi à préparer les matchs par rapport aux adversaires et par rapport à mon style de jeu pour gagner. Et je pense que Djokovic, il a quand même besoin de ça, surtout sur un grand chelem sur une période de 15 jours.
Ok, si je vous entends, en tout cas, les uns et les autres sur vos retours d'expérience, ça peut marcher, mais surtout en fin de carrière.
Surtout là, si on écoute Julien, il n'y a pas de progression. Les autres ne vont pas progresser. Tu ne te trouves jamais face à quelqu'un qui pourrait proposer quelque chose de nouveau dans le jeu. Je ne sais pas, je ne suis pas assez bonne en tennis, mais en tout cas, sur l'autre, tu dois toujours t'adapter aux autres quand même, tu vois. Et c'est là où il y a le coach entre en jeu aussi, non?
Oui, tu as raison, Marie. C'est un très, très bon point parce qu'effectivement, les Sinner, Alcaraz, Medvedev et compagnie, eux cherchent des solutions pour aller chercher Djokovic en grand chelem.
Donc ils vont proposer des cibles en plus. Hein.
Donc effectivement, on l'appelle comme on veut, le coach ou entraîneur.
Nous,
pour moi, entraîneur, c'est quelqu'un qui entraîne et qui est plus sur avec un joueur en développement qui va faire progresser sur tous les aspects du jeu. Djokovic, là-dessus, il a pas grand-chose encore à développer. Par contre, il y a des choses à maintenir et des choses à sur lesquelles il doit s'adapter, effectivement. Et c'est là-dessus où le coach, tactiquement, peut l'aider. Parce qu'à tout moment, j'ai discuté beaucoup avec Lubicic ces derniers temps. Il me parlait des préparations de matchs de Federer quand il jouait Djokovic-Nadal en grand chelem, alors qu'ils se connaissent par cœur. C'est d'une précision, mais diabolique.
Et oui, donc il y a forcément besoin de dans un staff.
C'est un peu le directeur sportif du cyclisme, en fait, le mec qu'il lui faut. C'est un mec qui maîtrise... La base, elle est faite, mais quelqu'un qui va plutôt préparer l'adversité que le mec en lui-même. Et ça, si tu te persuades que tu as besoin de personne, tu vas droit dans le mur.
Merci beaucoup, Julien Bennett, de nous avoir appelé et d'avoir été avec nous avec un petit peu dans les grandes gueules du sport. On te retrouvera très vite, évidemment, au mois d'avril. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Le zapping des GG, Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui ne veut pas d'athlètes russes et biélorusses à Paris pour les Jeux. Je sais que ça vous fait réagir, tout ça. On s'en fout pas, tout de suite sur RMC.
On y croit toujours, en tant que supporter, on est obligé d'y croire.
RMC jusqu'à midi.
Pas traumatisé, mais on les attend depuis ferme.
La ferveur du vélodrome et tout, c'est toujours jouable, on sait jamais.
Les grandes gueules du sport.
Ils aillent arracher la victoire, minimum le match nul.
On est vaincu au vélodrome, donc on va leur montrer ce que c'est, quelque chose, un stade où il y a le bouillon.
Jean-Christophe Drouet.
Jour d'OM Paris Saint-Germain, c'est ce soir le grand choc sur RMC, 20h45. Le coup d'envoi, prise d'antenne à partir de 20h en direct du stade Vélodrome, autour de Jean-Louis Tour, Jeannot Séguier, Florent Germain, Éric Dimeco. Bref, une soirée exceptionnelle et une journée exceptionnelle au rythme de cette rencontre. On en parle d'ailleurs à partir de 11h sur la possibilité de voir Luis Enrique faire tourner son effectif pour ce choc. Est-ce que ce serait un manque de respect? On en débat, mais GG avec Daniel Riolo. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Allez, des informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Mathieu Van Der Poel, grandissime favori du Tour des Flandres. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
À ton avis.
Tu t'en fous?
Non.
non, il s'en fout pas, évidemment. Marie Martineau.
Moi non plus.
David Douillet.
Moi non plus.
Jérôme Pinault.
Évidemment.
Alors, qui peut bien remporter ce Tour des Flandres, si ce n'est le prodige néerlandais Mathieu Van Der Poel en l'absence de Tadej Pogacar? C'est son choix. De Wout Van Aert, victime d'une terrible chute cette semaine. Eh bien, Van Der Poel paraît seul au monde en 5 participations sur le Tour des Flandres. J'ai vu cette stat cette semaine. Il a terminé 4 fois sur le podium, 2 fois premier, 2 fois deuxième. Arnaud Souk nous attend en direct d'Anvers. Salut Arnaud.
Salut les amis. Et tu peux ajouter sa 5e participation où il a fait 4e.
Oui.
C'est vrai, il s'est un peu craqué.
Après avoir crevé et chuté au pied du vieux Quarmont au deuxième passage, il avait bouché 2 minutes tout seul quand même.
Arnaud, il y a pas de suspense ou il y en a quand même un peu parce que ça reste.
Si, moi je pense quand même, ça reste une course de vélo de 270 km avec 7 secteurs pavés, avec 17 monts dont la plupart sont pavés. Plus d'une dizaine de ces monts-là sont pavés. C'est une course qui est extrêmement exigeante. Quand on parle avec les coureurs, ils te disent quand même que ça a un profil tout à fait particulier qui ne se trouve nulle part ailleurs. Ce Tour des Flandres, il va quand même falloir compter aujourd'hui aussi avec de l'humidité. On nous avait annoncé du temps sec, finalement il risque peut-être de pleuvoir en fin d'après-midi, d'après-midi vers 15-16h, ce qui fait que ça mouillerait encore plus les pavés. Moi je suis allé les reconnaître à vélo hier, les pavés, je peux vous dire que je suis pas sûr à 15h, je suis pas sûr que la course soit tout encore tout à fait faite.
Moi j'avais vu plutôt vers 16h, entre 16
et 17h. Voilà, donc ils avancent un petit peu la possibilité d'avoir de la pluie. Donc juste pour vous dire, il y a toutes ces données là qui sont des données extérieures. Après, Mathieu Van Der Poel, il les maîtrise parfaitement, ces données. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose de la part des autres équipes? Oui, il y a quelques équipes qui, à mon avis, peuvent pourquoi pas essayer de tenter de le mettre au pas. Je pense à Visma Lissebike notamment. Alors Dylan Van Baarle n'est pas forcément dans une grande forme, mais en tout cas il y a Matteo Jorgensen et Tiche Benoot qui sont quand même de sacrés adversaires. IF également, avec Bétiol, avec Bisseguer, avec Rutsch, a une sacrée équipe. Donc voilà, il va falloir pour ces équipes là je pense à Groupama FDJ également, avec Kung Piti et Madouas. Pour ces équipes-là, il va falloir lancer des flèches. Il va falloir lancer des flèches et tenter de toucher Mathieu Van Der Poel le plus de fois possible, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Lidl Trek la semaine dernière sur Grand Wevelgem. Et cette fois-là, Pedersen avait réussi à battre Van Der Poel.
Rapidement, les copains, on a plein d'informations à vous donner dans ce On s'en fout pas. Jérôme Pinot.
Non, mais moi je crois qu'il est archi favori, mais ça reste le Tour des Flandres. Il peut arriver à Mathieu Van Der Poel, ce qui est arrivé à Wout Van Aert et ses adversaires principaux le mardi dernier, c'est-à-dire chuter, une chute collective, un problème mécanique. Après, si tout se passe parfaitement, il est physiquement le plus fort. Attention quand même à Matteo Jorgensen, qui a fait forte impression le week-end dernier. Et il va être le leader de son équipe, une équipe qui est dévouée. Mais logiquement, on devrait avoir une très belle photo, puisque Mathieu maîtrise aussi la com à l'arrivée là-bas, et il va gagner le Tour des Flandres. S'il lui arrive rien, il va gagner le Tour des Flandres.
Comme Léon Marchand va gagner les Jeux, quoi.
Et juste d'ailleurs,
il a le droit à l'erreur,
Rendez-vous compte quand même de ce que ça représenterait. Alors, il n'y est pas encore Mathieu Van Der Poel, mais le Tour des Flandres, bon, bah, c'est l'un des cinq monuments, c'est l'une des plus belles courses du calendrier cycliste.
C'est la course la plus difficile à finir.
L'une des courses les plus historiques du calendrier. Et si jamais il gagne le Tour des Flandres, eh bien, il rentrera dans le club fermé des triples vainqueurs. Ça, il n'y en a pas énormément. Il y a notamment Cancellara, Bounen et Museu.
Et le but, c'est aussi peut-être de faire le doublé Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Les deux dimanches consécutifs, et je pense qu'il a ça dans les pattes.
Et on sera dimanche prochain en direct de Compiègne pour le départ de Paris-Roubaix avec Jérôme Pineau, avec Marie Martineau, avec Fred Weiss. On passe à autre chose, les copains. On remercie Arnaud Souk d'avoir été avec nous et on suivra évidemment cette course tout au long de la journée sur RMC. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Anne Hidalgo qui ne veut pas d'athlète russe à Paris pour les JO. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je sais, je vais écouter.
Ça me gonfle. Marie Martin.
Non, moi je m'en fous pas du tout.
Ok, Jérôme Pineau.
Évidemment que je m'en fous pas.
David Douillet.
Je m'en fous pas du tout.
La maire, oh là, ça va être bon. Ça. La maire de Paris, donc Anne Hidalgo, a indiqué qu'elle n'était pas favorable à la présence d'athlètes russes et biélorusses cet été aux Jeux Olympiques de Paris à l'occasion d'une visite ce week-end qu'elle effectue en Ukraine, à Kiev, capitale d'un pays assiégé par la Russie. On écoute justement les propos de la maire de Paris.
Dire aux athlètes russes et aux biélorusses qu'ils ne sont pas les bienvenus à Paris, et dire aux athlètes ukrainiens et à l'ensemble du peuple ukrainien que nous les soutenons de façon très active et très forte.
Ok, à vous de réagir. Je sens que ça vous fait réagir. Marie.
Oui, très rapidement, moi ça me rend dingue, je ne comprends pas à quoi elle joue. C'est une catastrophe qu'elle prenne des positions comme ça. Les Jeux Olympiques, c'est une compétition de sport. La question a été posée et depuis très longtemps, on n'a pas attendu 3 mois avant les Jeux, en commission internationale des athlètes, où je me trouvais présente. C'était terrible parce que effectivement, te faire raconter par des athlètes ukrainiens que leur frère est au front, que leur mère a pris un obus, que leur cousin est mort, enfin je veux dire c'était terrible et c'est à prendre en considération évidemment, mais ce n'est pas pour autant, on a tous dû voter et le vote a été représentatif de se dire, on ne peut pas exclure un athlète sous prétexte qu'il a un passeport d'un mauvais pays, d'un pays belligérant, surtout qu'en plus, excusez-moi du peu, il n'y a pas que la Russie sur la planète qui est un pays belligérant, il y en a d'autres, alors dans ce cas-là...
Et le CIO a tranché cette question, il y a bannière neutre.
Exactement, bannière neutre, très bien, et un choix dont les athlètes doivent quand même prouver qu'ils ne sont pas engagés dans ce conflit.
Pas de bouffe à midi, enfin voilà.
Ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi. Je suis vraiment horrifiée de savoir que cette dame-là a pu dire ça comme ça.
Elle est en Ukraine.
Je suis difficilement
dire autre chose.
Non. Pas tellement surpris qu'elle puisse dire deux choses pareilles. Qu'elle regarde dans les grands boulevards parisiens qui font fonctionner ces grands hôtels parisiens et qu'elle chasse les Russes alors. Les gros clients russes dans les boutiques de luxe. Moi, je suis pas surpris parce que elle dit tout et son contraire. C'est une menteuse. Et j'en ai été une de ses victimes. Donc, qu'elle dise ça, de la semaine prochaine, elle dira autre chose. Moi, en mars et en juillet 2022, elle a annoncé partout qu'on allait faire une grande équipe de vélo à Paris. Depuis, j'ai plus de nouvelles. C'est quelqu'un qui est capable, comme beaucoup de politiques, de dire tout et son contraire en peu de temps. Pourvu qu'elle soit en Ukraine, elle va dire ça. Et la semaine prochaine, elle mange dans un grand restaurant avec un Russe et elle dira l'inverse.
David.
C'est du gros rouge qui tâche. Voilà, c'est tout. C'est de la politique, politicarde. C'est, voilà, on surfe sur la vague, etc., etc. Et malheureusement, c'est de la mauvaise attitude politique parce que ces gamins russes ou biélorusses qui ne soutiennent pas le régime, qui sont victimes aussi de leur côté de cette attitude de leur pays, c'est sur cette population-là, c'est sur ces gamins-là qu'on va construire l'avenir de la Russie et de la Biélorussie. Et si tu les coupes encore plus de la connexion qu'ils peuvent avoir avec le vrai monde, avec un monde pacifié, un monde de gens qui se comprennent, avec un monde de tolérance, avec un monde de respect.
C'est l'essence même de l'Union européenne.
Alors, tu les cornerises. Enfin, exactement. C'est d'une absurdité folle. Laissons la parole aux gens qui ne font pas de politique, aux gens qui sont censés, aux gens qui prévoient l'avenir, et pas à celles et ceux qui, à des fins personnelles, font des sorties comme celle-là, simplement pour exister sur un aéropage politique qui n'est pas forcément favorable pour eux.
Oui, et puis il y a un an, Anne Hidalgo disait qu'elle était d'accord sous bannière neutre.
Et
puis
il y a Stéphane qui a décidé, et puis bon, c'est un peu
particulier. Mais vous avez eu envie de réagir, toutes les informations sur rmcsport.fr. Le classique au MPSG, c'est ce soir 20h45, on y retourne dans quelques instants avec Daniel Riolo. Faire tourner lors d'un match au MPSG, est-ce que ce sera un manque de respect? Oui ou non? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.